Alors, tout d'abord, il n'existe pas de juridiction de suppléance pour les évêques. La juridiction de suppléance est donnée dans des cas très particuliers, qui sont les cas nécessaires pour le salut des âmes, donc en substance pour les sacrements. Donc, les sacrements qui nécessitent de la juridiction pour être valides sont la confession et de façon indirecte le mariage, étant donné qu'un mariage pour être valide a besoin d'un témoin autorisé qui est le prêtre ayant une certaine délégation, une certaine qualification, disons. Mais c'est dans un sens très indirect pour le mariage. Donc évidemment, l'Église supplée la juridiction quand elle est nécessaire, strictement nécessaire au salut des âmes. Elle ne supplée pas pour la charge épiscopale.
Mais dans la situation actuelle, c'est justement le cas anormal où le pouvoir d'ordre est privé injustement du pouvoir de juridiction. Alors c'est dans ce cas-là où l'Église va suppléer miséricordieusement, voyez, en faveur de votre bien, à vous, fidèles, au pouvoir de juridiction qui manquerait à vos prêtres. Donc il s'agit d'un pouvoir extraordinaire, un cas d'exception. Voilà. À une situation exceptionnelle répondent des pouvoirs exceptionnels. J'en ai dit un mot pour la confession, mais ça vaut pour toute l'amplitude du ministère sacerdotal. Il n'y a pas de raison de limiter ça à la confession. Et vous savez que la juridiction nécessaire au prêtre est quelquefois nécessaire pour la validité des sacrements, pour la confession et pour l'assistance au mariage. Le prêtre doit avoir juridiction, sinon le mariage est nul. Bien que les deux fidèles, le fiancé et la fiancée, soient les ministres du sacrement. L'Église a ajouté une condition supplémentaire à la validité. Il faut que le contrat, le consentement matrimonial soit contracté devant le témoin officiel de l'Église, qui est normalement le curé. Alors, il est évident que nos prêtres n'ont pas ce pouvoir de façon ordinaire. Et donc, ils devront le recevoir de façon extraordinaire par cette même suppléance de l'Église. D'autres fois, ça sera seulement la juridiction sera nécessaire seulement pour la licéité, pour que l'acte posé par le prêtre soit licite, soit permis. Par exemple, pour prêcher. Un prêtre doit avoir le mandat pour prêcher. Ou encore un évêque pour confirmer dans un autre diocèse. Normalement, il doit avoir le mandat de l'évêque diocésain. Un prêtre pour ordonner des prêtres. Pardon, un évêque pour ordonner des prêtres. À plus forte raison pour sacrer d'autres évêques. Normalement, il faut juridiction. Pour sacrer, il faudra le mandat pontifical. Bien, c'est la même chose. C'est le même principe qui s'applique. Dans une situation exceptionnelle, l'Église va suppléer au défaut de juridiction du prêtre ou même de l'évêque qui sacre. Et plus la crise sera grave, plus il sera nécessaire justement de faire appel à un plus haut niveau à cette juridiction de suppléance. C'est ce qui s'est passé il y a 3 ans, le 30 juin 88. Donc, voyez bien, chers amis, c'est le cas de nécessité des fidèles qui fait que les prêtres de tradition, ou même les évêques de tradition, jouissent de cette juridiction de suppléance vis-à-vis de vos besoins. Non seulement pour confesser validement, pour assister validement au mariage, mais pour tous les actes de leur ministère sacerdotal ou épiscopal.
Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous de la Réaction, dans lequel nous allons réfuter et analyser les dernières analyses leféristes contre la foi catholique. Au-delà de ces attaques, nous allons essayer de comprendre ce qui est en train de se passer à la Fraternité Saint-Pédis. Vous observerez que nos ennemis actuellement sont déchaînés. Pour ne parler que de ce qui s'est fait récemment, nous avons eu des attaques de Guy Pagès. Ensuite, il y a eu la chaîne de l'Institut du Bon Pastis, Credo. Ensuite, nous avons eu des attaques du métis franco-égyptien, né sous le Front populaire. Nous avons eu l'attaque des Capucins de Morgon, et voici maintenant que la Fraternité Saint-Pédis et les Dominicains d'Avrier sortent du bois pour s'attaquer publiquement à la foi catholique et pour donner une légitimité catholique au modernisme, en fait, quoi. Voilà. Qui est le pire ennemi de l'Église, je le rappelle, selon Saint-Pédis, dans Pascendi. Alors, avant d'attaquer, comme vous le savez, nous faisons quelques petites annonces habituelles pour réagréger la qualité française. Alors tout d'abord, si vous cherchez un bon bouquin, n'hésitez pas à aller chez nos amis de la librairie française, au 202 rue Lecourbe. Je ferai d'ailleurs une conférence organisée par le Cercle catholique antimoderne d'Alain Pascal le vendredi 4 avril. Vendredi 4 avril. Et ça commence de mémoire, je ne sais plus si c'est 18h30 ou 19h. Je crois que c'est 18h30 le rendez-vous. Voilà, et la conférence, c'est « Pourquoi le cédévacantisme ?». Voilà. Ensuite, si vous cherchez un bon bouquin, vous pouvez aller sur le site de nos amis du collectif Saint-Robert-Bellarmin. J'ai fait la promotion à ce micro de nombreux ouvrages du Cercle, « 60 ans de religion conciliaire », le livre sur les nouveaux sacrements modernistes, la réédition de Saint-Robert-Bellarmin, le catéchisme du chanoine Moissé, etc., etc., etc. Et je vous annonce, chers amis, que le CSRB va publier une petite bombe, je crois qu'on peut le dire, un ouvrage qui est consacré, je dirais, à la relation catholicisme-dissidence. Une alliance est-elle possible entre le catholicisme et la dissidence? Vous suivez mon regard, hein, je pense. Hein. Et il n'y a pas que la dissidence qui ramasse dans ce livre, il y a aussi les tradis. Quoi. Les tradis, bah oui, les tradis. Parce que qui a donné une caution, entre guillemets, catholique à la dissidence sorallienne pendant près de 15 ans? Les traditionalistes, pas les catholiques, les traditionalistes. Voilà. Que ce soit au niveau des figures de proue ou d'ailleurs au niveau de la base. Donc un livre salutaire va sortir, qui permet au passage de revoir, je dirais, ses classiques. Donc c'est un ouvrage doublement intéressant. Il y a un aspect conjoncturel, mais il y a un aspect aussi structurel. Et j'ai hâte que cet ouvrage sorte, ça va être un très beau livre, voilà, un beau livre catholique. Alors ensuite, les vrais, comme vous le savez, peuvent aller sur le site des éditions L'Estocade, où on retrouve notamment les ouvrages de votre serviteur. On n'a pas de nouveautés en ce moment, mais la Providence, j'espère, va permettre que mon livre consacré à Vichy soit bientôt en cours d'impression. Voilà. Et je vous garantis que celui-là, il va percuter, hein, comme on dit au rugby. Il va percuter. Et je ferai de nombreuses émissions et de nombreuses conférences parce que j'ai énormément de choses à dire. Et j'ai la prétention de vous dire, chers amis, que je soulève plusieurs lèvres qui n'ont pas été soulevées par les historiens jusqu'à présent. Voilà. On en reparlera. Qu'ils soient pour ou contre, d'ailleurs. Hein. Bref. Alors, je précise qu'un certain nombre de livres sont actuellement en rupture de stock sur le site des éditions L'Estocade. La France divisée contre elle-même est en rupture de stock, la gauche est une maladie mentale également, je crois qu'il y en a encore 2-3 autres. J'aurai moi-même un certain nombre de ces ouvrages à la fête des amis d'Alain Pascal, dont on reparlera dans quelques instants. Vous pouvez en trouver en attendant aussi sur le site de la librairie française. Voilà, je le dis en passant. Donc, la fête des amis d'Alain Pascal aura lieu samedi prochain, donc le 29 mars, 4 rue Brémontier, dans le 17e arrondissement de Paris, et c'est au métro Wagram. C'est sur la ligne 3 de mémoire. Voilà. Donc, fête des amis d'Alain Pascal, je répète, le 29 mars. Par ailleurs, j'annonce en anticipant le rendez-vous annuel de Catholique de France aura lieu le week-end du 28 et 29 juin prochain. Voilà, 28 et 29 juin prochain. Et enfin, un pèlerinage est organisé au Puy-en-Velay par des catholiques du 9 au 11 mai. Le lien est en description, chers amis. Vous voyez, beaucoup d'événements. Fête des amis d'Alain Pascal le 29 mars. Conférence de votre serviteur le 4 avril à la librairie française à 18h30. Événement, alors pèlerinage au Puy-en-Velay du 9 au 11. Événement de catholique de France du 28 au 29 juin. Voilà. Donc, on a du pain sur la planche. Mais tout ça est nécessaire, il faut réagréger la qualité françoise. Vous êtes tous les bienvenus, chers amis, hein, même si vous n'êtes pas encore catholiques, hein, vous êtes tous bienvenus à ces événements. Voilà. Nous faisons aussi, comme vous le savez, un certain nombre d'appels aux dons. Hein, donc, appel aux dons pour des écoles, pour l'école Sainte-Expédite à Guingamp, pour l'école Notre-Dame Auxiliatrice dans la commune de Béton, et pour l'école Les Trois-Saint-Jean en Belgique, et aussi pour une école qui est en cours de constitution dans l'Anjou, Pierre-Thiermont, rappelez-moi le nom, j'ai oublié, excusez-moi. C'est Saint... Saint quoi ?
Il y a... Dans l'Anjou, c'est... Oui, c'est... Il n'y a pas de nom.
Bon, c'est Saint quelque chose. Enfin, une école en Anjou, pardonnez-moi, chers amis qui... Bon, c'est pas grave.
Saint-Éloi.
Saint-Éloi, voilà. Donc, si vous voulez donner un petit coup de pouce pour la mise en place de l'école de Saint-Éloi dans l'Anjou, eh bien, ma foi, n'hésitez pas si vous en avez sous le coude. Voilà, donc la France a encore un PIB de 3 000 milliards d'euros. Nous avons à peu près 7 000 milliards d'euros d'épargne, je précise. Hein, donc ça nous fait relativiser nos problèmes de dette. Et je ne parle pas de la valeur de notre patrimoine qui est absolument titanesque. On fait un peu d'économie au passage, vous voyez. Voilà. Donc, chers amis, si vous êtes dans la région parisienne le samedi 29 mars prochain, n'hésitez pas à venir à la fête des amis d'Alain Pascal. Nous serons entre bons François. Voilà. Un peu de pub aussi pour la brocante Saint-Joseph. Voilà, si vous cherchez des beaux objets, chers amis, allez faire un petit tour sur le site de la brocante Saint-Joseph. On a montré la dernière fois de très très belles assiettes, souvenez-vous. Voilà, alors il y a une tradition qui veut que j'oublie toujours des annonces. Je m'en excuse par avance, mais on a déjà annoncé pas mal de choses. On va pouvoir commencer sur l'actualité spirituelle. Je ne serai pas très long aujourd'hui à ce sujet. Premièrement, à ce micro et même dans des ouvrages, j'ai écrit qu'il va se passer des choses en 2028. Pourquoi ? Parce que ça fera 70 ans qu'a commencé l'éclipse de l'Église et l'usurpation moderniste par le faux pape Jean XXIII. Eh bien, on en a déjà la confirmation, chers amis. Puisque, à la surprise générale, le processus synodal que nous croyons tous terminé va se poursuivre jusqu'en 2028. C'est un processus pour la mise en œuvre de la synodalité. Et ça doit se conclure officiellement par une assemblée ecclésiale. Voilà. Donc on va assister à une radicalisation, une fois encore, du modernisme. Ensuite, le torchon brûle toujours davantage entre Vigano, Monseigneur Vigano, et le « entre guillemets », parce qu'il n'est pas validement ordonné ni sacré, Monseigneur Athanasius Schneider. Schneider a déclaré dans une vidéo récente que Vigano était schismatique, prière de ne pas rire, c'est toi Schneider qui, j'ai envie de dire, qui est schismatique puisque tu adhères à une fausse église, puisque et donc il était schismatique et qu'il regrettait les mots trop durs de Monseigneur Vigano contre Bergoglio, le faux pape. Et il ajoute, Monseigneur Lefebvre n'a jamais parlé comme ça du souverain pontife. Athanasius Schneider est mal renseigné, puisque dans une lettre au clerc de la Fraternité Saint-Pédis en 1987, pour commencer à préparer à l'idée de sacre, Monseigneur Lefebvre a qualifié la hiérarchie moderniste d'antichrist. Voilà, il a dit que c'était des antichrists qui étaient à la tête de la secte moderniste. Donc Athanasius Schneider est mal renseigné. Petit point intéressant, Monseigneur Vigano a fait ce qu'on appelait autrefois un tweet, dans lequel il dit ceci. En 2018, il va à Astana, il rencontre Athanasius Schneider, et celui-ci lui montre un document issu de sa hiérarchie qui lui interdit de quitter le diocèse d'Astana. Et Schneider a dit à ce moment-là, Vigano, regardez ce qu'ils m'ont fait. Vigano observe, Monseigneur Vigano observe ensuite, mais les mois et les années suivantes, Monseigneur entre guillemets Schneider a fait le tour du monde. Question, quel gage a-t-il donné pour retrouver sa liberté? Et Mgr Vigano nous dit, bah, c'est simple, c'est qu'il soutient que Bergoglio est pape, tout simplement. Voilà. Donc il est toujours intéressant d'ailleurs de voir que Mgr Vigano se positionne toujours en tant que sédévacantiste qui fait grief au pseudo-conservateur de considérer Bergoglio comme pape et de le dire publiquement. Voilà. Voilà, j'espère que j'oublie rien concernant l'actualité spirituelle. Donc Bergoglio, comme vous le savez, semble-t-il, va un peu mieux. Tant mieux, ça lui laisse du temps pour se convertir. Donc priez, chers amis, pour sa conversion. Et peut-être qu'il va retrouver suffisamment d'énergie pour faire, je dirais, un feu d'artifice final. Alors je ne sais pas quoi, la canonisation de Mahomet, de Martin Luther, il est capable de tout, notre ami Bergoglio. Hein. Donc voilà, prions pour sa conversion. Parce que le pauvre homme, hein, dans quel état est son âme, je l'ai déjà dit. Prions pour Jorge Mario Bergoglio. Georges-Marie Bergoglio, en français. On va pouvoir attaquer sur le premier sujet du jour. Donc, la semaine dernière, chers amis, la chaîne YouTube du prieuré de Nantes de la Fraternité Saint-Pédis a publié une vidéo, qui est une conférence d'un prêtre de la Fraternité Saint-Pédis, italien semble-t-il, l'abbé Di Sorco. Cette conférence est consacrée au sédévacantisme que l'abbé tente en vain de réfuter. Cette conférence est intéressante à double titre. D'abord, parce qu'elle s'axe sur un argument qu'on entend assez peu habituellement dans la bouche des lefebristes. Ensuite, parce que moins l'argument lui-même que la façon dont il est plaidé nous donne une orientation donne un indice sur l'orientation que prend la Fraternité Saint-Pédis. Et cette orientation, c'est la collaboration toujours plus prononcée, hélas, avec la secte moderniste et la fausse papauté. Les Dominicains d'Avrier reprennent cet argument, mais ils le plaident, je dirais, différemment et de façon moins radical, mais là, la façon dont c'est plaidé en dit long à un tel point qu'il y a, comme vous avez pu le voir en introduction, une opposition frontale, irréconciliable, entre la position de l'abbé Di Sorco et la position de Mgr Tissier de Malaret, lorsqu'il expliquait justement le positionnement théologique de la Fraternité Saint-Pédis au début des années 90. Voilà, donc l'abbé Di Sorco commence par nous dire, citation, qu'il faut se tenir au principe que l'Église a toujours enseigné. C'est précisément ce que ne fait pas l'abbé Di Sorco, puisque celui-ci ne fonde pas son propos sur le magistère de l'Église, et il ne cite pas le magistère de l'Église. Son propos est d'autant plus dépourvu d'autorité qu'il ne cite aucun argument d'autorité. Parfois, il nous dit les théologiens indiscutables, mais on ne sait pas qui, on ne sait pas quand, on ne sait pas où. Donc, l'argumentation de l'abbé Di Sorco, je dirais, est une pure spéculation de l'intéressé, qui, je le répète, ne repose sur aucun argument d'autorité, ni magistériel, ni théologique. Enfin, j'entends par là qu'aucun théologien de prestige approuvé par l'Église n'est cité par l'abbé Di Sorco. Alors, dans un premier temps, chers amis, je réfuterai les hérésies de l'abbé, et dans un deuxième temps, eh bien, je réfuterai cette argumentation, comme je vous le dis, assez peu utilisée habituellement par les lefebristes. Et nous essaierons de comprendre où la Fraternité Saint-Pédis cherche à envoyer, je dirais, ses fidèles. Alors commençons, si vous le voulez bien, par les hérésies de l'abbé Di Sorco. Et principalement donc ces hérésies sur l'infaillibilité pontificale, qui sont au nombre de 3. L'abbé Di Sorco commence par nous dire qu'il est possible qu'un pape perde la foi et professe l'hérésie. Citation à 1 minute 40, c'est la première fois dans l'histoire de l'Église qu'une situation comme ça se produit. On n'a jamais eu de pape qui enseigne une doctrine erronée pendant aussi longtemps et de façon aussi étendue. Donc il nous dit, un pape professe une doctrine erronée en matière de foi. Et vers 1h30, il nous dit, le jour où le pape reviendra totalement à la vraie foi. Donc il considère que Bergoglio n'a pas la foi. Question, chers amis. Est-il possible, selon l'enseignement de l'Église, qu'un pape perde la foi? La réponse est négative. Pierre Tirmont, s'il vous plaît, pièce numéro 1, je vous prie. Oui. Alors, tout d'abord, commençons avec Pie IX, qui, dans sa lettre encyclique Ad Apostolicae Sedis, parle au sujet des papes en disant ceci. Celui dont la foi ne saurait défaillir. Celui dont la foi ne saurait défaillir. Et déjà dans Qui Pluribus, sa lettre apostolique, il disait à la foi de qui, donc parlant du pape, il a promis de ne jamais défaillir. Voilà. Donc Pie IX nous dit, la foi du pape ne peut pas défaillir. Et Vatican I nous précisait que le pape était infaillible en raison de la promesse que le Christ a faite à Saint-Pierre. J'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille pas. Bon. Léon XIII, dans sa Disconitum, s'exprime en des termes assez proches. Il nous dit ceci, Jésus-Christ, notre Seigneur, a obtenu à Pierre que dans l'exercice de son pouvoir, sa foi ne défaillit jamais. Sa foi ne défaillit jamais. Donc dans le cadre de son pouvoir de pape, un pape ne peut pas perdre la foi, c'est parfaitement clair, je ne vois pas où il y a une quelconque ambiguïté. Et le propos n'est pas restrictif au magistère extraordinaire, comme me l'opposait Mathieu Lavagner dans une vidéo. Il n'y a absolument aucune mention qui est faite, une quelconque restriction, c'est l'exercice de son pouvoir. Donc ça couvre l'ensemble du magistère, et même au-delà. Ensuite, on pourrait citer Benoît XV, Principi Apostolorum Petro. À Pierre, le prince des apôtres, le divin fondateur de l'Église, a attribué le don de l'inhérence. L'inhérence, c'est l'absence d'erreur en matière de foi et d'union avec Dieu. Donc, un pape ne peut pas perdre la foi, c'est parfaitement clair. D'autant plus clair que Pie XI nous dit ceci dans son encyclique Casticonobi. Il nous dit que le propre des vrais chrétiens, c'est de se laisser gouverner et conduire en tout ce qui concerne la foi et les mœurs, par la Sainte Église de Dieu, par son suprême pasteur, le pontife romain. Donc, en matière de foi, l'Église nous oblige à suivre le pape. L'Église ne nous obligerait pas à suivre le pape si celui-ci pouvait être hérétique, puisque sinon ça voudrait dire qu'on nous oblige à devenir hérétique. Aucun sens. D'autant plus, peu de sens, ce qu'on nous oppose, que Pie XI précise que le pape, en matière de foi, est dirigé par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, comment soutenir qu'une personne dirigée par notre Seigneur Jésus-Christ peut professer l'hérésie et perdre la foi? Aucun sens. Donc, à la question... Est-il de foi qu'il est possible qu'un pape perde la foi? Je réponds, il est de foi qu'il est impossible qu'un pape perde la foi. Voilà, c'est pas possible. Parce que c'est dit mot pour mot, tout simplement, dans l'enseignement infaillible de l'Église, et ce, par plusieurs papes, dont le très grand pape Pie IX. Voilà, donc j'espère que l'abbé di Sorco rétractera son propos. Ensuite, l'abbé di Sorco, ça c'est un classique chez les lefèvristes, nie l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église. Et il semble considérer que le pape ne parle pas ex cathedra dans le cadre de son magistère ordinaire. L'abbé dit ceci à 1:03:40. Les sede vacantistes pensent que le pape est toujours infaillible, même dans ses actes ordinaires. Donc, pas seulement quand il enseigne une doctrine ex cathedra, pour eux le pape est infaillible dans tout acte officiel. Alors, petite parenthèse, c'est marrant cette formule d'acte officiel, puisque Monsieur de Ségur a fait un ouvrage sur l'infaillibilité, dans lequel il nous dit que l'enseignement officiel de l'Église est infaillible. Et ce texte a reçu un bref de la part de Pie IX. Je le dis en passant, monsieur l'abbé di Sorco. Alors, très souvent, chers amis, vous vous souvenez, je vous ai cité à ce micro le célèbre passage d'Humani Generis, encyclique de Pie XII, dans lequel il nous dit que le magistère ordinaire et le magistère extraordinaire ont la même autorité. Et donc les deux sont infaillibles, puisque le magistère extraordinaire est infaillible. L'abbé Sorco, je le répète, nous dit « Magistère extraordinaire égale ex cathedra, égale infaillible. Magistère ordinaire égale pas ex cathedra, égale pas infaillible. » Voyons ce que nous disent, pour commencer, les théologiens, puisque parfois des personnes se plaignent que je ne cite que le magistère et non des théologiens. Ce qui est un argument curieux, puisque le magistère de l'Église a une valeur supérieure, une autorité supérieure à celle des théologiens. Mais bon, là, je vais vous citer un théologien qui a un propos extrêmement clair. Pierre Tirmont, s'il vous plaît, pièce numéro 2, je vous prie. Il s'agit du père Perriot, qui est l'un des rédacteurs de la célèbre revue, fantastique revue, L'Ami du Clergé, en date du 3 septembre 1903, donc avant même que Pie XII fasse la mise au point dans Humani Generis. Que nous dit le père Perriot ? Citation. Ce n'est pas seulement quand il use de son magistère extraordinaire par une définition solennelle qu'il, le pape, parle ex cathedra, mais encore quand il fait office de son magistère ordinaire et qu'il se contente de faire savoir que tel point concernant la foi ou les mœurs doit être tenu par les chrétiens. Donc, que nous dit le père Perriot ? Il nous dit que le pape parle ex cathedra dans le cadre de son magistère ordinaire et qu'ainsi il est tout autant infaillible que lorsqu'il parle dans le cadre de son magistère extraordinaire. Et notez qu'il parle du pape seul. Donc, contrairement à ce que nous disent les ecclésiastiques, il n'y a pas que le magistère ordinaire universel qui est infaillible. Il y a aussi le magistère pontifical, ordinaire pontifical, tout court. C'est toujours bon de le rappeler. Alors, je vais vous citer un autre texte qui est aussi explicite que possible et qui a une grande autorité. Pierre Tirmont, s'il vous plaît, pièce numéro 3. Quel est ce texte ? C'est une intervention de Mgr d'Avanzo, qui était membre de la Députation de la Foi au Concile Vatican I. La Députation de la Foi avait pour tâche de transmettre la pensée de Pie IX au Père conciliaire. Donc, comme Mgr d'Avanzo s'exprime, il exprime la pensée de Pie IX. Pie IX va-t-il nous dire que le magistère ordinaire de l'Église est infaillible ou qu'il n'est pas infaillible ? Pie IX va-t-il nous dire que le magistère de l'Église est infaillible chaque jour qui passe ? Ou va-t-il nous dire, comme les lefévristes, les ecclésiastiques et de nombreux conciliaires conservateurs, que le pape n'est infaillible qu'une fois ou deux par siècle ? Vous me voyez venir, chers amis. Pie IX va nous dire que le magistère ordinaire de l'Église est infaillible et qu'il est quotidiennement infaillible. Citation. Il y a donc un double mode d'infaillibilité dans l'Église. Double mode. Le premier est exercé par le magistère ordinaire de l'Église. Pie IX nous dit que le magistère ordinaire de l'Église est un mode d'infaillibilité. Qu'est-ce qui n'est pas clair ? Comment peut-on nier une telle évidence, chers amis ? Poursuivons. C'est pourquoi, de même que l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité demeure dans l'Église tous les jours, de même, tous les jours, pas une fois par siècle, tous les jours, l'Église enseigne les vérités de foi avec l'assistance du Saint-Esprit. Tous les jours, l'Église est assistée par Dieu pour enseigner la vérité. Qu'est-ce qui n'est pas clair, chers amis ? L'infaillibilité est quotidienne. Poursuivons, plus loin. Toutes ces vérités, l'Église les enseigne quotidiennement, tant par le pape que par chacun des évêques adhérents au pape. Ça veut donc dire que l'Église est infaillible quand le pape enseigne seul, principalement par le pape, et quand le pape le pape enseigne avec les évêques de l'Église. Ça, c'est ce qu'on appelle le magistère ordinaire universel. Donc là, ce sont les différentes branches du magistère ordinaire qui sont citées. Et Pie IX précise en nous disant que lorsque la nécessité l'impose, à ce moment-là, on exerce le magistère extraordinaire de l'Église et on fait une définition. Donc en fait, il n'y a pas deux magistères. Il y a plusieurs branches d'un seul magistère. Le magistère est infaillible, il a une branche ordinaire et une branche extraordinaire. Il n'y a pas un sous-magistère en dessous du magistère suprême qui serait seul le magistère extraordinaire de l'Église. Ou plutôt, le magistère ordinaire de l'Église n'est pas désigné comme étant le magistère suprême, mais pour autant, il a la même autorité. Il est infaillible, il doit être cru de foi divine, à l'instar du magistère extraordinaire. Voilà. Alors, cette articulation entre magistère ordinaire et extraordinaire, je répète, le magistère ordinaire est quotidiennement infaillible, mais lorsque les circonstances l'obligent, on fait une définition, donc on exerce le magistère extraordinaire. Donc cette articulation, on la retrouve dans un document infaillible de l'Église, qui est Mortalium Animos. C'est page combien ça déjà ? C'est page 150 à peu près. Donc, c'est un texte de Pie IX. Les Ecclésiadei nous opposent que ce texte ne vise que le magistère ordinaire universel de l'Église. C'est totalement faux, chers amis, et j'en veux pour preuve que Pie XI fait une allusion extrêmement claire au magistère extraordinaire. Donc ça vaut pour toutes les branches du magistère, magistère extraordinaire, magistère ordinaire universel, magistère ordinaire pontifical. Citation. Le magistère de l'Église s'exerce chaque jour, donc c'est-à-dire que l'Église est infaillible chaque jour, par le pontife romain et par les évêques en communion avec lui. Donc les Ecclésiadei se servent de ce passage pour dire, vous voyez, c'est une mention du magistère ordinaire universel. Non, ça veut simplement dire que les sujets de l'infaillibilité sont principalement le pape et les évêques en communion avec lui. Voilà. Donc le magistère s'exerce chaque jour par le pontife romain et par les évêques en communion avec lui. Mais en outre, toutes les fois qu'il s'impose de résister plus efficacement aux erreurs et aux attaques des hérétiques, ou d'imprimer dans l'esprit des fidèles des vérités expliquées avec plus de clarté et de précision, ce magistère, donc vous voyez, il ne dit pas un autre magistère, il dit ce magistère, donc c'est bien la preuve que ça ne vise pas que le magistère ordinaire universel. Ce magistère comporte le devoir de procéder opportunément à des définitions en forme et termes solennels. Donc on retrouve l'articulation évoquée par Monsieur D'Avanzo. Voilà. Et on aurait pu encore une fois vous citer, vous savez, ce fameux passage, je l'ai déjà dit, d'Humane Generis, de Pie XII, où il nous dit que magistère ordinaire et extraordinaire ont la même autorité. Voilà, donc contrairement à ce que nous dit l'abbé di Sorco, le magistère ordinaire de l'Église est infaillible, et le pape parle ex cathedra lorsqu'il exerce le magistère ordinaire de l'Église. Il n'y a absolument aucun doute quant au fait que le magistère ordinaire soit infaillible. Les textes que je vous ai cités sont, on ne peut plus explicites, on ne peut pas faire plus d'explicites. Hein ? Pie IX vous dit, le magistère ordinaire est un mode d'infaillibilité. Voilà, donc c'est pas la peine de venir nous dire le contraire. Bon. Ensuite, troisième hérésie concernant l'infaillibilité de l'abbé di Sorco, il nie l'infaillibilité de la discipline de l'Église. Citation de l'abbé à 1h34 et 20 secondes à peu près. Pour le nouveau droit canon, on peut avoir un doute. Sans doute, il y a des canons qui sont faux et qu'il faut refuser parce qu'ils vont contre la foi. Des canons peuvent aller donc contre la foi, selon l'abbé di Sorco. Donc selon lui, la discipline de ce qu'il dit être l'Église peut être contre la foi. Quel est l'enseignement de l'Église à ce sujet ? Pierre Tirmont, s'il vous plaît. Attendez, j'oublie quelque chose. Bon, je le ferai après. Pièce numéro 5, je vous prie. Donc l'Église enseigne que, bien entendu, la discipline de l'Église est infaillible. Alors, Pie VI nous dit dans Doctorem Fidei que l'Église est dirigée par l'Esprit de Dieu, et l'idée selon laquelle l'Église pourrait établir une discipline qui soit dangereuse et nuisible pour les âmes, eh bien, Pie VI nous dit que c'est une proposition qui est fausse, téméraire, scandaleuse, pernicieuse, offensive des oreilles, injurieuse pour l'Église et pour l'Esprit de Dieu. Voilà. Donc, M. Abbé di Sorco, avis aux amateurs. Et dans un bref, Grégoire XVI nous dit ceci, le bref Quo Graviora, l'Église peut-elle ordonner, générer ou autoriser ces choses qui ont pour conséquence la destruction des âmes et la disgrâce au détriment des sacrements institués par le Christ ? Voilà. Et bien entendu, Grégoire XVI répond par la négative. Donc, la discipline de l'Église est infaillible, chers amis, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est extrêmement clair. Lorsque j'avais débattu face à Mathieu Lavagna, je lui avais opposé que la bénédiction des couples homosexuels par la secte moderniste allait en contradiction par rapport à l'infaillibilité pontificale, et je lui avais évoqué que la discipline de l'Église est infaillible. Et il m'avait dit non, bah si, cher Mathieu Lavagna, si, voilà. Petit retour, chers amis, sur l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église, j'ai oublié de vous dire un truc. L'abbé di Sorco nous dit ceci. J'ai étudié à 1h04 dans sa vidéo. J'ai étudié tous les théologiens, tous. Il n'y en a pas un que l'abbé di Sorco n'a pas étudié. J'ai étudié tous les théologiens entre Vatican I et Vatican II, et il n'y a aucun théologien qui pense que le pape est infaillible, même lorsqu'il ne parle pas ex cathedra. Donc ça, c'est une nouveauté théologique des sédévacantistes. Entendons-nous bien, chers amis. Aucun théologien n'enseigne qu'un pape est infaillible lorsqu'il ne parle pas ex cathedra, bien entendu. Sauf que, quand l'abbé dit sur quoi dit cela, rappelons-nous, il vise le magister ordinaire, et il nous dit que le magister ordinaire n'est pas une parole ex cathedra. Donc, question, est-il exact qu'entre Vatican et Vatican II, des théologiens aient dit que le magister ordinaire n'est pas infaillible? J'en connais pas, moi, qui affirme cela. J'en connais pas. Je vais vous en citer trois qui défendent l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église. Le premier, je vous l'ai déjà cité. Vous avez mis la pièce 4, Pierre Thiemont ?
5 seulement.
Ouais, mettez la pièce numéro 4, s'il vous plaît. La 5, vous pouvez l'enlever. Donc la 4, voilà. Donc c'est des extraits de théologiens, de textes de théologiens. Donc dans l'ami du clergé, je répète ce que je vous ai déjà cité tout à l'heure. Ce n'est pas seulement quand il use de son magistère extraordinaire par une définition solennelle qu'il parle ex cathedra, mais encore quand il fait office de son magistère ordinaire et qu'il se contente de faire savoir que tel point concernant la foi et les mœurs doit être tenu pour les chrétiens. Le magistère ordinaire est infaillible, c'est très clair, selon le Père Perriot et la revue de l'ami du clergé. Ensuite, je vais vous citer le théologien Vacan. Le chanoine Vacan a énormément... oui, il a une très grande autorité. Donc il a fait un ouvrage, étude théologique sur la constitution, enfin sur les constitutions du Concile Vatican I. Il rappelle dans un premier temps l'infaillibilité du magistère ordinaire et universel de l'Église, et il poursuit. Le pape pourrait-il exercer ce magistère ordinaire sans les évêques, comme il porte sans eux les définitions solennelles infaillibles? Réponse, nous le croyons. Non seulement le chanoine Vacan, avant toutes les mises au point faites par Léon XIII et Pie XII, donc, défend l'infaillibilité du magistère ordinaire et universel, mais il défend également l'idée que le magistère ordinaire pontifical, donc quand le pape agit seul, est infaillible. Et enfin, je vais vous citer Don No, qui a fait un livre qui s'appelle Une source doctrinale, les encycliques. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, pour ce livre, Don No, on est arrivé à la conclusion que les encycliques sont infaillibles en matière de foi et de mœurs. Quand on ne parle pas de foi et de mœurs, c'est pas infaillible. C'est pour ça que quand on dit, dans certains textes, quand des théologiens disent que le magistère peut être infaillible, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas infaillible en matière de foi et de mœurs. Ça veut dire que quand il ne parle pas de foi et de mœurs, il n'est pas infaillible. C'est ça que ça veut dire. Bon. Donc Dono nous dit les encycliques sont infaillibles, et ça tombe bien, Pie XII vient de rendre un document, l'encyclique Humanae Generis, dans lequel il dit que le magistère ordinaire est infaillible, et comme les encycliques appartiennent à ce magistère ordinaire, elles sont infaillibles. Donc que nous dit Dono? Il nous dit il faut reconnaître le privilège de l'inhérence à un enseignement dont dépend si étroitement la foi, alors l'inhérence c'est l'absence d'erreur, hein, dont dépend si étroitement la foi universelle, et dont Dieu lui-même, vérité première, s'est porté garant. Voilà. Et j'aurais pu vous citer, chers amis, rappelez-vous, tous les théologiens que Mathieu Lavagnam a opposés lors de notre débat, dont il prétendait qu'il contestait l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église, alors qu'en réalité, il défendait l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église, et notamment le père du Blanchy. Mais Mathieu Lavagnam a une circonstance atténuante, c'est qu'il a été trompé par deux prêtres. Donc un prêtre de la fraternité Saint-Pédis qui s'appelait l'abbé Veil, je crois, de mémoire, Frédéric Veil, et un prêtre, alors qui n'est pas validement ordonné, Hilaire de quelque chose de, je sais plus si c'est l'Institut du Christ-Roi ou du Bon Pastis, j'ai oublié. Voilà, donc Mathieu Lavagna a été induit en erreur. Donc il a des circonstances atténuantes puisqu'il est jeune et influençable. Bon. Donc tous ces théologiens qui m'ont été opposés défendent l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église. Voilà. Donc non, monsieur l'abbé Di Sorco, vous n'avez pas étudié tous les théologiens entre Vatican et Vatican II, car ces théologiens que je vous ai opposés et qui ont autorité, eh bien, soutiennent que le magistère ordinaire de l'Église est infaillible en matière de foi et de mœurs. Voilà. Donc maintenant, nous en arrivons au seul argument qu'oppose l'abbé Di Sorco au CD vacantiste, puisqu'il dit à 33 minutes 35, la position CD vacantiste en elle-même ne s'oppose pas à un point de la foi catholique. Voilà, la position CD vacantiste n'est pas en elle-même hérétique ou schismatique. Que nous dit l'abbé Di Sorco? Quel est son argument donc contre le CD vacantisme? C'est le suivant. Il nous dit que le CD vacantisme peut devenir contraire à l'indéfectibilité de l'Église lorsque la vacance est trop longue. J'entends par là que, selon l'abbé Di Sorco, il y aurait une disparition de la hiérarchie lorsque le pouvoir de juridiction ordinaire disparaît, et c'est ce à quoi on aboutit lorsque la vacance est trop longue, parce que bien entendu, les derniers évêques qui avaient reçu juridiction ordinaire de Pie XII ont fini par mourir. Donc, l'abbé de Sorcoy exprime cette idée. Donc, je répète que quand la vacance est trop longue et que disparaît le pouvoir de juridiction ordinaire, à ce moment-là, on arrive à une situation qui serait contraire à l'indéfectibilité de l'Église. Bon. L'abbé de Sorcoy, vous disais, j'exprime ça avec une grande confusion lexicale et doctrinale en utilisant des formules qui sont totalement étrangères au magistère de l'Église. Donc, citation à 49.45. Pour être visible en tant que société, il faut qu'il y ait, citation, une autorité sociale. C'est quoi l'autorité sociale? C'est le pape, c'est les évêques, c'est les cardinaux? C'est eux tous ensemble? On ne sait pas. Si le siège était vacant depuis 60 ans, eh bien, il n'y aurait plus dans l'Église d'autorité sociale. On ne sait toujours pas ce que c'est, l'autorité sociale. L'autorité avec un grand A, on sait ce que c'est le pape, mais l'autorité sociale, on ne sait pas. Donc l'Église aurait perdu sa visibilité. Elle aurait perdu un élément essentiel de sa visibilité. Pour être une société, il faut qu'il y ait une autorité sociale, on y revient. Or, pour laisser les vacantistes, il n'y a plus d'autorité sociale dans l'Église, on n'en sait pas davantage, chers amis. Bon. Alors d'abord, petit rappel sur la visibilité de l'Église, qui panique énormément nos contradicteurs, alors que la réponse à cette question est très simple. Qu'est-ce que c'est la visibilité de l'Église? C'est très simple. Léon XIII l'évoque dans Satis Cognitum, il oppose la vision des choses catholiques à la vision des choses protestantes. Les protestants pensent que l'Église est dans le ciel. Léon XIII dit non, pas du tout. L'Église est visible. Les membres de l'Église et la hiérarchie de l'Église sont visibles, on les voit. C'est tout ce que ça veut dire. Rien de plus, rien de moins. Et Pie XII reprend ça, je ne sais plus si... Oui, je crois que c'est en Misici Corporis Christi. Voilà, donc ça veut dire qu'on doit pouvoir voir les membres de l'Église. C'est ça la visibilité de l'Église. Rien de plus, rien de moins. Bon. Et là, d'ailleurs, à ce sujet, il y a une contradiction monumentale de l'abbé de Sorcoy. Pourquoi ? L'abbé de Sorcoy nous a dit que Bergoglio n'avait pas la foi. Donc, il est hérétique. Et l'abbé de Sorcoy nous dit au sujet des cardinaux ceci, à 59 minutes 10. Je ne connais aucun cardinal, enfin avec des guillemets un cardinal, hein, puisque c'est les cardinaux de la secte moderniste. Je ne connais aucun cardinal qui soit même de façon lointaine proche des positions catholiques. Les cardinaux conservateurs sont pour Vatican II la nouvelle messe. Donc ça veut dire que pour l'abbé de Sorcoy, la visibilité de l'Église est assurée par des hérétiques, par Bergoglio et des cardinaux qui n'ont pas la foi. Est-il sérieux, chers amis, d'opposer que la visibilité de l'Église catholique puisse être assurée par des hérétiques? Mais ça n'a pas de sens, vous le comprenez bien. Par définition, la visibilité de l'Église s'illustre par la visibilité de catholiques. Enfin, c'est quand même pas... pas besoin d'être saint Thomas pour comprendre ça, quoi. Bon. Bref. D'ailleurs, nous verrons dans un instant, chers amis, que les communautés non nacum réunissent toutes les conditions de la visibilité de l'Église. L'abbé Di Sorcoy nous évoque aussi à 48 minutes, 10, citation, « Qui dit hiérarchie, dit gouvernement et obéissance. » Alors là, on a envie d'abord de rire. Pourquoi ? Un prêtre de la Fraternité Saint-Pédis qui défend l'obéissance, c'est une mauvaise blague. Puisque tout le fonctionnement de la Fraternité Saint-Pédis, bien qu'elle soit ralliée, puisqu'elle reçoit sa juridiction de la secte moderniste, tout le fonctionnement de la Fraternité Saint-Pédis repose sur la désobéissance à la personne qu'elle considère comme étant pape et à la hiérarchie qu'elle considère comme étant celle de l'Église catholique. Donc là, quand on le voit l'abbé Di Sorcoy nous parler d'obéissance, on est un peu surpris. Bon. Mais bref, revenons à son propos. Il nous dit, qui dit hiérarchie dit gouvernement. Donc là, il nous dit, qui dit hiérarchie dit pouvoir de juridiction ordinaire. La juridiction ordinaire, c'est le pouvoir que reçoit l'élu du conclave lorsqu'il accepte la charge de devenir pape. Bon. Question, chers amis. Est-ce que ce que nous dit l'abbé Di Sorcoy est exact? Est-il vrai que le pouvoir de juridiction ordinaire est un élément constitutif de la hiérarchie de l'Église? Le Concile de Trente répond à l'abbé Di Sorcoy. Il répond par la négative, vous allez le voir. Puisque le Concile de Trente définit précisément de quoi se compose la hiérarchie de l'Église. Pierre, tiens-moi, s'il vous plaît, pièce numéro 6. Donc c'est issu du décret du Concile de Trente sur le sacrement de l'ordre. De quoi se compose, chers amis, la hiérarchie de l'Église ? Le Concile de Trente, je le répète, nous le dit. Citation. Donc, l'Église catholique a une hiérarchie établie par disposition de Dieu, laquelle se compose donc, de trois éléments que vous pouvez observer, d'évêques, de prêtres, de ministres. D'évêques, de prêtres, de ministres. Aucune mention n'est faite du pouvoir de juridiction ordinaire, ce qui ne veut pas dire que c'est quelque chose de pas important. J'observe que le Concile de Trente, lorsqu'il définit l'Église, ne le mentionne pas. Il parle d'évêques, de prêtres, de ministres. Et j'observe que les communautés de Nonacum, chers amis, que dans les communautés de Nonacum, on retrouve ces trois éléments de l'hiérarchie de l'Église. Donc, l'hiérarchie de l'Église est aujourd'hui chez les Nonacum et elle réunit donc le critère évoqué par Léon XIII aussi concernant la visibilité de l'Église, elle est visible. Voilà. Donc elle est visible aux yeux comme Léon XIII l'évoque dans sa Dies Cognitum. Voilà, donc j'oppose à l'abbé di Sorco le Concile de Trente. Question, chers amis, et question que je pose principalement à mes contradicteurs. Où était la juridiction ordinaire de l'Église en l'an 903 et 904, lorsque le faux pape Christophore était à la tête de l'Église? Je précise que l'Église a attendu 1900, dans le début du XXe siècle, pour considérer que Christophore était un faux pape. Où était le pouvoir de juridiction ordinaire alors qu'il n'y avait pas le titulaire de ce pouvoir de juridiction ordinaire? Puisque je rappelle que le pouvoir de juridiction ordinaire, c'est le pouvoir que le pape obtient lorsqu'il accepte, enfin lorsque l'élu du conclave accepte la charge pontificale. Où était la juridiction ordinaire à ce moment-là? Question. Où était le pouvoir de juridiction ordinaire en 974 et en 984 lorsque le faux pape Boniface VII était à la tête de l'Église? Autre question. Où était le pouvoir de juridiction ordinaire entre 1033 et 1046 lorsque trois faux papes, Benoît IX, Sylvestre III et Grégoire VI, se sont succédés à la tête de l'Église? Trois faux papes que le Concile de Soutry en 1046 a dégagés et qui a élu dans la foulée le pape Clément II. Le Concile de Soutry s'est-il dit, on ne va pas pouvoir dégager Grégoire VI parce qu'il a le pouvoir de juridiction ordinaire? Où était la juridiction ordinaire, chers amis? Réponse, vu qu'il n'y avait pas de pape, ben, il n'y avait pas de juridiction ordinaire. Et il y avait à la place une juridiction de suppléance. L'Église a suppléé, comme le droit canon nous l'évoque à l'article 209. Pierre Thiermont, s'il vous plaît. Pièce numéro 7. Donc, que nous dit le code de droit canon au sujet de la juridiction de suppléance? C'est très simple. En cas d'erreur commune, donc par exemple sur la qualité d'un faux pape, ou de doute positif et probable, sur un point de droit ou de fait, l'Église supplée la juridiction pour le fort tant externe qu'interne. C'est pas compliqué. Juridiction de suppléance. En cas de vacance de siège, lorsqu'il y a un usurpateur. C'est pas compliqué. Et je précise que cette juridiction de suppléance, elle nous est confirmée par la juridiction ordinaire. Pourquoi? Parce que ce code de droit canon a été promulgué et approuvé par le pape Benoît XV dans le cadre de ces juridictions ordinaires. Donc il y a toujours un lien entre la juridiction ordinaire, je dirais, et la juridiction extraordinaire, n'en déplaise à nos contradicteurs. Donc, vous disais-je, en cas de vacance de siège, eh bien, il y a une juridiction, en cas de vacance de siège, lorsqu'il y a un usurpateur à tête de l'Église, l'Église supplée. Mettons encore plus les pieds dans le plat, chers amis, sur cette question brûlante. Est-il possible qu'il y ait une interruption du pouvoir de juridiction ordinaire? La réponse est positive, on vient de le voir. Bon. Il n'y a pas beaucoup de documentation à ce sujet, mais je tiens à vous partager une réflexion de Mgr Gérard Deslauriers, qui a mis les pieds dans le plat, je dirais, concernant cette question piquante. Vous retrouvez l'extrait que je vais vous lire dans l'article qui s'appelle « Consacré des évêques ». Que nous dit Mgr Guérard ? Il nous dit ceci. « La promesse du Christ, je serai avec vous jusqu'à la fin des siècles », donc qu'il fait aux 11 apôtres à la fin des évangiles, vise ce que Mgr Guérard appelle la missio, c'est-à-dire en gros le sacrement de l'ordre et ce qui est afférent à ce sacrement. Et donc, grâce à cette promesse de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y aura jamais d'interruption dans, je dirais, la perpétuation de l'ordre. Jamais. Aucune interruption. En revanche, observe Mgr Guérard, la promesse que le Christ a faite à Pierre concernant le pouvoir de juridiction ordinaire a été faite dans des termes très différents qui n'impliquent pas qu'il soit impossible qu'il y ait une interruption du pouvoir de juridiction ordinaire. Et de fait, il y a eu une disparition du pouvoir de juridiction ordinaire. Donc je vais vous lire, chers amis, un passage très intéressant, donc d'un article de Mgr Guérard des Lauriers. Pierre Tirmont, s'il vous plaît, pièce numéro 8. Suivez bien, parce que Mgr Guérard a parfois une plume, techniquement parlant, dure à suivre. Bon. Allons-y. Premièrement, la cessio, donc la cessio, dans le texte de Mgr Guérard, c'est le pouvoir de juridiction ordinaire. Et la missio, donc la missio, c'est le sacrement de l'ordre, notamment, vostilienne, donc du faux pape Vostila Jean-Paul II, ne sont pas la cessio et la missio de l'Église fondée par Jésus-Christ. C'est très clair. La pseudo-juridiction de Vostila n'est pas la juridiction de l'Église, n'est pas le pouvoir ordinaire de juridiction ordinaire de l'Église, et ses sacrements sont bidons. Les nouveaux sacrements modernistes, rappelez-vous, sont invalides. Deuxièmement, l'authentique cessio, donc pouvoir de juridiction, sera rétabli, s'il faut rétablir, c'est qu'il n'est plus là, et ce ne peut être que par le processus ci-dessus décrit. Donc Mgr Guérard fait ici mention à sa thèse, à laquelle à titre personnel d'ailleurs, je n'adhère pas, mais bon, c'est pas la question ici. Ou directement, donc il y a une autre voie pour restaurer le pouvoir de juridiction ordinaire, nous dit Mgr Guérard, ou directement par une intervention de Jésus-Christ. Et Mgr Guérard développe ce point un peu plus haut dans le texte, où il nous dit Dieu peut intervenir autrement par un miracle qui serait évident pour tous. Donc Mgr Guérard n'est pas contre l'idée selon laquelle une intervention divine réglera la question de l'éclipse de l'Église. Troisièmement, la missio, donc je le rappelle, le sacrement de l'ordre, actuellement en état de privation, puisqu'il n'a pas avec lui la juridiction ordinaire, non en elle-même, mais eu égard à la cessio, la missio donc durera ici, ou là, sur terre, jusqu'à son rétablissement parfait, concomitant à celui de la cessio. Là, on arrive à ce que je vous ai dit. Il en sera ainsi, parce que Jésus a fait très précisément pour la missio, le sacrement de l'ordre, une promesse qu'il n'a pas faite dans les mêmes termes pour la cessio. Pour la missio, aucune interruption. A contrario, pour le pouvoir de juridiction ordinaire, possibilité d'interruption. Quant au dessein de Dieu concernant le rétablissement de la cessio, l'évanescence des espoirs prématurés nous rappelle à l'austère réalité. Nous ne savons rien parce que Dieu est libre. Nous ne devons donc rien exclure a priori, mais plus encore respecter le mystère, en aimer le secret et l'adorer. Et là, point très intéressant, Mgr Guérard répond à la fois aux conclavistes et à la fois à tous les conciliaires et les modernistes qui se croient très malins en nous disant « Mais vous, c'est des vacantistes, comment selon vous est-ce que on va faire un nouveau pape et comment ce qu'on appelle par euphémisme la crise de l'Église va se résoudre ?» Voilà. Et ils pensent marquer un point lorsqu'on leur dit « Écoutez, vous êtes bien gentils, mais nous, on ne lit pas dans l'avenir. » C'est comme si des hérétiques avaient voulu attaquer l'Église en 1390 pour dire « Mais vous, catholiques, vous prétendez que votre Église, c'est la vraie Église, mais regardez, vous avez trois papes. Et vous n'êtes même pas capable de nous dire comment vous allez vous débrouiller pour en avoir qu'un seul. Plus qu'un seul. Aucun sens. » Bon. D'ailleurs, j'observe que à partir du moment où il y a toujours le sacrement de l'ordre, il y a toujours possibilité d'avoir un pape dans l'absolu, voyez. Mais il va falloir sans doute pour ça une intervention divine, comme nous le dit Mgr Guérard dans ce texte. Bon. Donc que pose Mgr Guérard au Lefebvre, au, qu'est-ce que je raconte moi, au, au conclaviste et à ceux qui croient pouvoir tirer parti du fait que nous ne savons pas lire dans l'avenir. Bon. Jésus dort dans sa barque, donc mention d'un passage de l'évangile, il a fait observer que le réveillé était manqué de foi. Je répète, Jésus dort dans la barque, il a fait observer que le réveillé était manqué de foi. Il faut donc, concernant le rétablissement de la cessio, attendre, et je dirais attendre, et persévérer dans la foi. Voilà. Voilà, donc Mgr Guérard met les pieds dans le plat et il nous explique qu'il est possible qu'il y ait une interruption du pouvoir de juridiction ordinaire, mais comme nous l'avons vu, l'Église supplée. Donc, l'abbé Di Sorco nous dit « Toute juridiction de suppléance suppose l'existence d'une, d'une juridiction ordinaire. Je lui oppose que son propos n'est étayé par aucun argument d'autorité, mais je lui oppose également que, de toute façon, le code de droit canonique lui-même, approuvé dans le cadre de la juridiction ordinaire, évoque la juridiction de suppléance. Bon. » Donc, résumons, chers amis. L'abbé Di Sorco nous dit que le cédévacantisme est faux parce qu'il conduit à la disparition du pouvoir de juridiction ordinaire et que ceci équivaut à la disparition de la hiérarchie de l'Église. Je lui oppose que le Concile de Trente, lorsqu'il définit les composantes de la hiérarchie de l'Église, n'évoque pas le pouvoir de juridiction ordinaire. Il ne l'évoque pas. Voilà. Et que les communautés non unicum réunissent les éléments constitutifs de la hiérarchie de l'Église, que sont les prêtres, les évêques et les ministres. Donc l'argument massu de l'abbé Di Sorco tombe à l'eau, puisque ce qui est censé être indispensable à l'existence de la hiérarchie de l'Église ne l'est pas. Même si ce n'est pas une situation normale, nous en convenons parfaitement. Contrairement à ce que nous dit l'abbé Di Sorco, il y a une possibilité d'interruption de la juridiction du pouvoir ordinaire de la juridiction ordinaire de l'Église en cas d'usurpation du siège par un imposteur. En pareil cas, l'Église supplée, et je le répète, les communautés de Nonacum réunissent les éléments constitutifs de la hiérarchie tels que le Concile de Trente le définit. Qu'avez-vous opposé au Concile de Trente, monsieur l'abbé Di Sorco? Rien, bien évidemment. Donc cet argument tombe à plat, et j'espère avoir été assez clair sur cette question un petit peu technique de la juridiction ordinaire de l'Église. Maintenant, arrivons au message que l'abbé Di Sorco a voulu faire passer, message qui est diamétralement opposé, je le répète, à la conférence qu'a faite Mgr Tissier de Malray au début des années 90 sur la juridiction de suppléance. Le message, il est très simple. Le message de l'abbé est le suivant, la fraternité Saint-Pédis n'a pas la juridiction pour faire des sacres. Ce qui revient à condamner les sacres faits par Mgr Lefebvre en 1988. J'avais déjà dit dans une émission précédente que pour continuer son processus de collaboration avec la secte moderniste, la fraternité Saint-Pédis n'a pas d'autre choix que de renier plus ou moins ouvertement, plus ou moins officiellement, Mgr Lefebvre, un peu comme Marine Le Pen, a été obligé, d'un point de vue politique, de renier son père, fondateur de son mouvement. C'est ce que fait l'abbé Di Sorco en l'espèce. Petite citation de l'abbé Di Sorco, que nous avions déjà mis en audio. Il nous dit ceci. Il n'y a pas de juridiction de suppléance pour les évêques. Donc il n'y en avait pas pour Mgr Lefebvre. Il nous dit que la juridiction de suppléance ne peut être utilisée que pour la confession et les mariages, et plus loin il poursuit, vers 1 minute 17, l'Église ne supplée pas pour la charge épiscopale. L'Église ne supplée pas pour la charge épiscopale. Mais si l'Église ne supplée pas pour la charge épiscopale, Mgr Lefebvre, vous n'avez pas de juridiction de suppléance pour faire les sacres en 88. Et ces sacres n'ont pas non plus été faits dans le cadre de ce qui est officiellement pour le lefebvriste la juridiction ordinaire, puisque Mgr Lefebvre n'avait pas de mandat entre guillemets pontifical de Wojtyla. Conclusion. Conclusion, les sacres de 88 ont été faits dans un contexte totalement schismatique. Les sacres de 88, selon ce raisonnement, sont des actes purement schismatique. Comment comprendre autrement les propos de l'abbé? Ça m'échappe là, je vous avoue, ça m'échappe. Bon. Alors, il y a quand même des fidèles qui sont interpellés, et qui expriment cette interpellation à l'abbé d'Isorco. Et l'abbé d'Isorco, là, il s'en mêle complètement les pinceaux, vers 1h19 minutes 47 secondes. Tout ce qu'a fait Monseigneur Lefebvre, citation, c'est transmettre un pouvoir, il n'y a pas de problème pour ça. Bah si, il y a un problème pour ça. S'il n'a pas de juridiction pour le faire, ni de suppléance, ni ordinaire, c'est un acte purement schismatique. Et alors là, il s'embrouille, notre cher abbé d'Isorco, et il nous dit donc, Monseigneur Lefebvre avait le pouvoir de proposer des évêques à la nomination du Saint-Siège. Ah bon? Ah bon? Où il était suspens à divinis. Donc il est suspens à divinis et il avait le pouvoir de nommer des, enfin de proposer des évêques. C'est quand même curieux. Ou sinon, vous savez, c'est comme dans l'ancien régime, dans l'ancienne France, pardon, c'est le roi qui nommait les évêques, mais c'était juste la nomination parce qu'ensuite les évêques recevaient leur pouvoir du pape. Donc là, on voit l'abbé d'Isorco essaie de se rattraper, il essaie de noyer le poisson, mais c'est du grand n'importe quoi. Ce qui ressort de son propos, chers amis, c'est que, selon lui, Monseigneur Lefebvre n'avait aucune juridiction pour faire les sacres, et on ne peut donc que conclure que, selon lui, eh ben, les sacres de 88 étaient des actes schismatiques. Je le répète, que conclure d'autre? Que comprendre d'autre? S'il n'y a ni juridiction ordinaire, ni juridiction de suppléance, que comprendre d'autre? Bon. Et donc là, on voit, chers amis, qu'il y a une fracture doctrinale monumentale à la Fraternité Saint-Pédis, que j'avais déjà observée sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Je suis attaqué par les lefévristes sur les réseaux sociaux. C'est normal, je défends la foi catholique. Mais ce que j'observais, c'est que il y avait deux camps chez les lefévristes. Il y avait le camp qui disait « Monsieur Abosi, vous êtes injuste avec nous, nous sommes en opposition avec Vatican II et la hiérarchie qui le promeut, et ces gens-là ne sont pas catholiques. » Alors moi, je leur oppose qu'ils sont en communion avec ces gens-là, je leur oppose qu'ils reçoivent leur juridiction de ces gens-là, etc. Bref. Et un autre camp qui nous dit « Mais nous sommes en communion avec Rome, il n'y a pas de problème. Et Bergoglio n'est pas un hérétique, il n'a pas professé d'hérésie. » Donc là, il y avait vraiment deux positions absolument inconciliables. Et quand on ose nous dire, côté lefebvriste, qu'il y aurait des accords, un manque d'unité chez les sédévacantistes, oui, sur des questions qui relèvent de l'opinion, on peut avoir des désaccords, mais en matière de foi, on est d'accord. On est d'accord pour dire que Bergoglio est un faux pape. Voilà, on est d'accord pour dire que la hiérarchie moderniste n'est pas l'hiérarchie de l'Église. Bref, là, il y a un désaccord frontal à la Fraternité Saint-Pédis. Alors, vous me direz, la Fraternité Saint-Pédis, c'est quand même une grosse machine. Des milliards d'euros de patrimoine, des centaines de prêtres, beaucoup d'écoles, etc. C'est pas ça qui va les branler. Et d'ailleurs, la décennie précédente, le départ de Mgr Williamson n'avait pas fait beaucoup de remous. Hein, il avait été suivi par très peu de prêtres et de fidèles. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour la Fraternité Saint-Pédis, la situation est extrêmement différente. Parce que M. Bergoglio est passé par là. Et aussi parce que il y a un apostolat de Nonacum qui est de plus en plus puissant sur les réseaux sociaux, c'est pour ça qu'on nous attaque. Et donc, les esprits cogitent à la Fraternité Saint-Pédis. Les esprits cogitent. Ils cogitent d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a une alternative épiscopale issue de la lignée Lefebvre. Alternative, j'entends, à la Fraternité Saint-Pédis. Et cette autre voie, eh ben, c'est Mgr Vigano, qui est en train de faire un séminaire. Et on m'a dit dans l'oreillette, chers amis, que plusieurs prêtres de la Fraternité Saint-Pédis sont d'ores et déjà en contact avec Vigano et préparent d'ores et déjà leur départ. Combien sont-ils? Je ne sais pas. Un prêtre de position non nonacum qui avait quitté la fraternité il y a une dizaine d'années avait dit à une de mes connaissances que beaucoup de ses confrères de la Fraternité Saint-Pédis avec qui il était encore en bon terme, donc il disait que, citation, ça leur brûlait les lèvres de prononcer le nom de Bergoglio au canon de la messe. Bon, bah, peut-être que ces gens-là, ils vont peut-être en avoir marre de se brûler les lèvres. Vous voyez? Bref, chers amis, face à l'équivoque entretenu par la direction de la Fraternité Saint-Pédis, les germes d'une scission sont réunis. Voilà. Sont d'autant plus réunis que bah, là, quand la Fratérie Saint-Pédis exprime sa position officielle, elle exprime une position qui est radicalement contraire à la position de Monseigneur Étienne Malaret. C'est un fait, j'observe. Bon. Donc, chers fidèles de la Fratérie Saint-Pédis, je vous invite à quitter la Fratérie Saint-Pédis parce que, tout simplement, la religion qui vous est enseignée là-bas n'est pas la religion catholique. Regardez l'abbé de Sorcaux qui nie l'infaillibilité pontificale. Il nie l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église. Il vous enseigne qu'un pape peut devenir hérétique. Il vous dit que la hiérarchie, que la discipline de l'Église n'est pas infaillible. On vous enseigne pas la foi catholique là-bas. Donc je vous invite à quitter la fraternité. Et j'invite tous les prêtres et tous les fidèles de la Fratérie Saint-Pédis, eh bien, à adopter la position non unicum, tout simplement. Parce que la Fratérie Saint-Pédis n'est pas dans les clous d'un point de vue catholique. Elle n'est pas dans les clous, elle ne professe pas la foi catholique. Elle est ralliée à une secte hérétique et schismatique. Elle n'est pas dans les clous, et ça ne me fait pas plaisir de le dire, parce que le jour où la Fratérie Saint-Pédis deviendra catholique, eh ben, on aura 700 prêtres, tout d'un coup, de plus. Donc ça sera extrêmement précieux. Mais ce jour, malheureusement, on ne le voit pas vraiment venir. Voilà. Bah, je vous ai dit de prier, chers amis, pour Bergoglio. Prions, prions pour les fidèles et la hiérarchie et les clercs donc, de la Fratérie Saint-Pédis pour qu'ils nous rejoignent dans le combat. Et donc, prions pour leur conversion. Voilà. Donc, on va faire une petite pause musicale. Et ensuite, chers amis, eh bien, nous arrivons à la deuxième partie de l'émission qui est consacrée, cette fois-ci, aux Dominicains d'Avrier. Pertinemment, musique, s'il vous plaît.
Jeune Seigneur et ton œuvre splendide, un cœur de feu et d'un âme de guerrier, tu le donnas à la Vierge timide, que tu voulais couronner de laurier. Sainte Jeanne de France, notre espérance
Nous arrivons maintenant, chers amis, à la deuxième partie de l'émission consacrée à la réfutation donc d'une conférence faite par le père Louis-Marie des Dominicains d'Avrier. Conférence qu'ils appellent « La tentation sédévacantiste ». Alors, moi, je vous avoue que j'ai aucune tentation le févriste. Hein, bon. J'avais un peu échangé avec, avec le frère Louis-Marie il y a quelques années de ça. C'est une personne très gentille, et sa personne n'est pas du tout en cause. Je ne doute pas non plus de la volonté de faire le bien des Dominicains d'Avrier, ni du fait que leurs écoles soient d'excellente qualité. Mais hélas, il leur arrive de faire le sale boulot de la secte moderniste. Hein. On se souvient qu'il y a une vingtaine d'années, ils avaient fait un ouvrage pour défendre la validité du rite de consécration épiscopale montignien. Ça, c'était absolument inadmissible. Et à l'époque, le comité Rore Scientifica avait très bien répondu aux Dominicains d'Avrier. Et je fais une synthèse d'ailleurs de leurs échanges dans mon ouvrage L'équivoque vaincu par le magistère, qui d'ailleurs lui aussi est en pire de stock et qu'il faudra qu'on réimprime. Donc depuis longtemps, les Dominicains d'Avrier sont à la pointe du combat anti-cédévacantiste. Il est donc assez naturel de les voir aujourd'hui sur YouTube reprendre ce combat. Hélas, lorsqu'ils agissent de la sorte, eh bien c'est à la foi catholique qu'ils s'attaquent. Et de fait, c'est assez faible. Hein. Je ne vais pas être trop dur, mais parmi toutes les attaques qu'on a eues contre la position cédévacantiste, celle-ci est vraiment... Enfin voilà, hein, 30 ans de controverse pour en arriver là, c'est quand même pas top, quoi. Hein. Puisque donc, la plupart des arguments qui nous ont opposés ne sont même pas des arguments d'ordre doctrinaux. Ce sont parfois des affirmations totalement farfelues. Et sinon, ce sont des pseudo-arguments de raison. Ce n'est que subsidiairement que l'on aborde des questions doctrinales. Donc j'aborderai dans un premier temps les questions non doctrinales, et dans un deuxième temps, j'aborderai les questions doctrinales. Mais je précise qu'à l'instar des Capucins de Morgon, à l'instar de l'abbé d'Issorco, l'intervenant ne fonde pas son propos sur le magistère de l'Église et il ne cite pas le magistère de l'Église. C'est un fait. Et de même, il ne cite pas les théologiens sur lesquels il prétend s'appuyer. Donc son propos est dépourvu de toute autorité. Pas d'argument d'autorité égale pas d'autorité. Voilà, c'est pas compliqué. Alors commençons avec le premier argument. Il nous dit que, le père Louis-Marie nous dit, qu'on devient cédévacantiste pour des raisons d'ordre sentimental et non doctrinal. C'est une pure inversion accusatoire. Donc citation, les cédévacantistes à 10 minutes 30, nous dit-il, ne dominent pas leurs sentiments, et à 22 minutes 30, il nous dit, c'est pour des causes sentimentales que l'on devient cédévacantiste. Je le répète, c'est une pure inversion accusatoire. Pourquoi ? Je l'ai suffisamment démontré à ce micro, la position cédévacantiste se fonde sur des causes doctrinales, puisque nous nous fondons sur le magistère de l'Église, que je ne cesse de vous citer. Avez-vous déjà vu un lefriste faire ça, chers amis ? Non. En revanche, sur quoi se fonde, chers amis, la position lefévriste ? Elle se fonde sur le culte de la personnalité de Mgr Lefèvre. Elle se fonde sur un amour totalement déréglé de la personne de Mgr Lefèvre. Donc les sentimentaux, entre guillemets, ils sont chez vous. Donc je répète, notre position se fonde sur des causes doctrinales, sur le magistère, vous, votre position, se fonde sur les sentiments. Voilà. Alors, argument farfelu qui nous est opposé, qui est assez monumental celui-là, à 1h12, le frère Louis-Marie nous dit ceci. On s'accroche. Les cédévacantistes allaient surveiller les jeunes qui venaient se faire baptiser à Saint-Nicolas du Chardonnay pour essayer de les en détourner et les faire prêter le serment qu'ils n'iraient jamais à une messe unacum. Cher frère Louis-Marie, où êtes-vous allé chercher une absurdité pareille ? Je pense, depuis plus d'une dizaine d'années, les connaître un petit peu, les cédévacantistes parisiens, ce que vous décrivez là n'existe pas. Voilà. Tout simplement. Donc, si on en est réduit à ça pour s'attaquer à nous, c'est que il n'y a pas beaucoup d'arguments dans la besace de la partie adverse. Ensuite, le frère Louis-Marie insiste pour nous dire qu'on n'a pas besoin du cédévacantisme pour résoudre la crise. Citation, 22 minutes 5. Est-ce qu'on a besoin de cette thèse cédévacantiste pour résoudre la crise dans l'Église. 22 minutes 40, est-ce que le cédévacantisme apporte une explication de la crise? 22 minutes 50, on n'a pas besoin de ça pour expliquer la crise. Et 29 minutes 30, il n'y a pas besoin de dire qu'ils, donc les pseudo-papes modernistes, ne sont pas papes. Alors là, il y a un sophisme, parce que c'est Dieu qui résoudra la crise. Donc dans l'absolu, on peut toujours dire qu'on n'a pas besoin des cédévacantistes pour résoudre la crise, parce que c'est Dieu qui va la résoudre. En revanche, la thèse cédévacantiste est nécessaire pour rester catholique dans le contexte de subversion moderniste que nous connaissons. Puisque seule la position cédévacantiste repose sur la foi catholique. Le cédévacantisme, c'est l'application de la foi à la situation actuelle. Et elle repose, je l'ai souvent dit, sur le magistère infaible de l'Église. Donc, la position cédévacantiste, on en a besoin pour rester catholique. Et à l'échelle humaine, on en a besoin pour combattre. Parce que qui est l'ennemi? On ne sait pas trop qui est l'ennemi. Si on peut même pas le désigner, si on ne fait pas le constat de la vacance du siège, on ne peut pas combattre efficacement le modernisme. C'est pas possible. Les Capucins de Morgon ont fait une vidéo récemment pour dire qu'ils rejetaient Vatican II. Très bien. Vous rejetez les fruits, mais vous acceptez l'arbre. Ça sert à rien. Bon. Donc, on a besoin de la position cédévacantiste pour rester catholique et pour mener le bon combat. La position non unicum du reste est en conformité avec le réel. Et elle permet de bien écrire le mal, tandis que la position lefévriste, elle, repose sur la négation du réel, justement, et sur l'hérésie, et sur la communion avec les hérétiques, puisque vous êtes unacum le modernisme, quand même, hein, cher frère Lumari. Et disant cela, je m'adresse à tous les lefévristes. Et donc, oui, il y a besoin de dire qu'ils ne sont pas papes. Pourquoi? Parce que s'ils sont papes, on a l'obligation de leur obéir. Pierre Tiremont, s'il vous plaît, pièce numéro 9. Vous seriez un vrai. Vous me dites quand vous y êtes. Numéro 9. Alors attendez, c'est moi qui ne suis pas encore du coup. Donc, si Bergoglio est pape, il y a l'obligation de lui obéir pour le salut de notre âme. Citation de la bulle, célèbre bulle de Boniface VIII, Unam Sanctam. En conséquence, nous déclarons et définissons, disons et définissons, qu'il est absolument nécessaire au salut pour toute créature humaine d'être soumise au pontife romain. Nécessaire au salut pour toute créature humaine d'être soumise au pontife romain. Pas de soumission au pape, pas de salut. Le Concile Vatican précise l'étendue de cette soumission. Elle se fait dans quatre domaines, la foi, les mœurs, la discipline et les actes de gouvernement. Et enfin, Léon XIII rajoute dans Sapiens et Christianae quelque chose de très important. Il nous dit que si vous obéissez au pape, vous savez que vous serez mis en possession de la vérité. Citation, ils, les catholiques, savent avec certitude qu'en obéissant à son autorité, l'autorité de l'Église, et en se laissant guider par elle, ils seront mis en possession de la vérité. Donc oui, c'est absolument fondamental de savoir si Bergoglio est pape ou non. S'il est pape, nous avons l'obligation de nous soumettre à lui en matière de foi, de mœurs, de discipline et d'actes de gouvernement pour le salut de notre âme. S'il n'est pas pape, on a le devoir impérieux de lui désobéir et de dénoncer son imposture. Donc, je répète, la position cédévacantiste est nécessaire pour garder la foi et pour combattre. La question qu'il faut poser au Dominicain d'Evrier est la suivante. Pourquoi, alors que vous reconnaissez Bergoglio comme étant pape, vous lui désobéissez dans tous les domaines dans lesquels l'Église vous demande de lui obéir, s'il est pape? Répondez à cette question, Dominicain d'Evrier. Répondez-y, parce que sinon vous trompez vos fidèles. Alors, le père Lumari nous dit qu'on ne peut pas trancher ces questions-là avec certitude. Je lui réponds, bah si, on peut trancher avec certitude, hein, en se fondant sur le magistère de l'Église, tout simplement, puisqu'il est infaillible et donc vrai. Et il nous dit qu'il faut faire preuve de prudence et ne pas aller trop vite. Hein. Il nous dit ça, c'était à quelle minute ça? Voilà, vers 3 minutes. Il nous dit, la prudence nous dit qu'il ne faut pas aller trop vite. Cher frère Lumari, ça fait quand même près de 70 ans maintenant, hein, donc on ne peut pas dire qu'on va trop vite. Hein. Bon. Alors, le frère nous dit également ceci, il nous dit que pendant le grand schisme d'Occident, il y a eu des bulles pontificales pour dire que des fidèles pouvait assister à des messes qui étaient sous l'obédience d'un antipape. J'oppose à ceci deux choses. Premièrement, le frère Louis-Marie ne nous prouve pas l'existence de ces bulles qu'il ne cite pas. On ne sait pas de quoi il parle. Donc nous sommes priés de le croire. C'est un peu léger quand même. Deuxièmement, la situation est totalement différente avec celle d'aujourd'hui. Puisque aujourd'hui, ce n'était pas des hérétiques. À l'époque, si ce texte a bien existé, il tranchait une question de fait, à savoir que les fidèles n'étaient pas en possibilité de savoir qui était véritablement pape ou non. Il n'y avait pas les moyens de communication qu'il y a aujourd'hui. Donc face à une question de fait, à la limite, on peut supposer que ce texte a existé. Mais là, on n'est pas seulement une question de fait, chers amis, aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une question doctrinale, c'est-à-dire que les modernistes enseignent une fausse religion. Et ça, on ne peut pas faire semblant de ne pas le savoir. Voilà. Alors ensuite, le frère Louis-Marie fait un long développement sur la question du pape hérétique. Et il dit plusieurs choses fausses. Il dit tout d'abord, que je retrouve ça, où est-ce qu'il dit ça ? Voilà. À 38 minutes 50, il nous dit « La plupart des théologiens estiment qu'un pape peut devenir hérétique. » Réponse, c'est totalement faux. Et il ne cite aucun théologien. D'ailleurs, petite parenthèse, il faut préciser, théologien après Vatican I, puisque Vatican a défini le dogme de l'infaillibilité. Donc ce qui compte, principalement, c'est les théologiens après Vatican I. Citez-nous, cher frère Pierre-Marie, des papes, des théologiens, pardon, qui, comme vous le dites, estiment qu'un pape peut devenir hérétique. J'en connais aucun après Vatican I qui a enseigné ça. Je vous invite, pour ne pas tromper vos fidèles, et pour bien leur prouver que vous ne racontez pas n'importe quoi, eh bien à nous citer ces théologiens qui, semble-t-il, massivement ont penché pour cela. Combien même ces théologiens auraient existé, très chers frères, ils se seraient prononcés contre l'enseignement de l'Église. Pierre Thiron, est-ce que vous pouvez nous remettre la pièce numéro 1, je vous prie ? Puisque je rappelle que Pie IX enseigne infailliblement que le pape est celui dont la foi ne peut pas défaillir, donc il ne peut pas devenir hérétique. Je rappelle que Léon XIII, dans sa Disconitum, nous dit que dans l'exercice de ses fonctions, un pape ne peut pas voir sa foi défaillir. Je rappelle que Benoît XV enseigne infailliblement que le pape a un don d'inhérence en matière de foi, donc d'absence d'erreur. Et je rappelle que Pie XI, dans Cassis Conubi, nous dit qu'en matière de foi, le pape est dirigé par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc par définition, s'il est dirigé par notre Seigneur Jésus-Christ, il ne peut pas enseigner le faux, il ne peut pas perdre la foi. Bon. Par ailleurs, concernant la question de la pertinacité, on est face à un sophisme. Pourquoi ? La pertinacité, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de persévérer, d'être obstiné dans l'erreur. Mais, soyons très clairs, un pape ou quelqu'un qui se prétend pape, par définition, est pertinace. Puisque par définition, quand il enseigne en matière de foi et de mœurs, il considère comme étant impossible le fait de revenir sur ce qu'il a enseigné, de contredire ce qu'il a enseigné, même après une monition. Par définition, quand Saint Pédis fait Pascendi, il se dit pas « bon là je vais enseigner ça, mais potentiellement je peux me tromper, et si on me fait des monitions, je reviendrai sur ce que je dis ». Ça n'existe pas ça. Un pape par définition est pertinace. Et Bergoglio qui prétend être pape, par définition, se pense pertinace. Et j'ajoute que l'autorité morale qu'est l'hiérarchie moderniste, la question de la pertinacité ne se pose pas, puisqu'on parle d'une personne morale. Bon. Et j'ajoute qu'après près de 70 ans, s'il n'y a pas pertinacité, je ne sais pas de quoi on parle. Hein. Donc, énorme sophisme concernant la pertinacité. Et bien entendu, de toute façon, les intéressés sont pertinaces au regard de la durée, les décennies. Quand on professe l'hérésie pendant des décennies publiquement, excusez-moi, on est pertinace. Bon. Alors ensuite, le frère Pierre-Marie fait une allégorie assez curieuse où il compare les papes aux pharmaciens. Voilà. Alors que nous dit le frère Pierre-Marie ? Citation, 6 minutes 30. Donc en fait, il nous dit, c'est comme si un pharmacien, au lieu de donner des bons médicaments, donnait du poison. On voit très bien que la comparaison ne vaut rien. Pourquoi ? Parce que, très cher frère Pierre-Marie, quelle est la différence entre le pharmacien du coin et le pape ? C'est que le pape, il jouit d'une protection divine pour ne pas donner de poison. Père Thiron, est-ce que vous pouvez remettre les pièces numéro 9, je vous prie ? Nous allons reciter Léon XIII, qui nous dit bien que l'Église ne peut pas donner de poison à ses fidèles. Citation, ils, les catholiques, savent avec certitude qu'en obéissant à son autorité, l'autorité de l'Église, et en se laissant guider par elle, ils seront mis en possession de la vérité. obéissance à l'autorité égale mise en possession de la vérité égale absence de possibilité de diffusion du poison. Donc votre comparaison ne vaut pas grand-chose, très cher frère Pierre-Marie. Ensuite, vous nous dites, on n'a pas besoin de connaître l'explication pour dire, de toute façon, je n'en prends pas de ce poison. Ben si, on a besoin de savoir. Parce que si l'intéressé est pape, comme je viens de vous le dire, il ne peut pas verser du poison. Donc, on peut se soumettre à son enseignement. Et ensuite, à 7 minutes 15, le frère Pierre-Marie nous dit ceci, que les cédévacantistes n'ont pas d'autorité pour dire que le pharmacien n'est plus membre de l'ordre des pharmaciens. Oui, nous n'avons pas l'autorité officielle de l'Église, mais en revanche, nous avons le devoir de dire la vérité. Lorsque saint Bernard de Clairvaux dit « Vous, Anaclet II, vous n'êtes pas pape », il n'a pas l'autorité de l'Église pour le faire. Mais néanmoins, il avait le devoir de dire la vérité. Étant précisé que notre tâche à nous est beaucoup plus simple que celle de Saint-Bernard de Clairvaux, puisque lui n'a pas tranché une question doctrinale, alors que nous, nous avons le magistère de l'Église pour trancher la question. Donc, que de sophisme autour de cette question de l'analogie donc pharmacien-pape. Hein, donc, à 8 minutes, hein, le frère Louis-Marie nous le redit, il nous évoque que le pape donne du poison au lieu de nous donner la bonne doctrine. Donc ça, il est de foi que c'est impossible. Je répète, il est de foi qu'il est impossible qu'un pape donne du poison au lieu de la bonne doctrine. Tous les passages du magistère que nous avons cités aujourd'hui et hier le démontrent. Donc, chers fidèles lefévristes, interrogez vos clercs, opposez-leur ces textes du magistère de l'Église et dites-le. Et voilà, posez-leur la question. L'Église nous dit que ce n'est pas possible. Pourquoi vous nous dites que c'est possible si l'Église nous dit que c'est pas possible? Comment peut-on penser que vous professez la foi catholique puisque vous contredisez l'Église sur un élément essentiel de la foi? Bon. Alors ensuite, le frère Pierre-Marie reprend l'argument de l'abbé Di Sorco et il nous dit que donc à long terme, le cédévacantisme va contre l'indéfectibilité de l'Église. Il dit ça vers 18h40 et il nous dit que la position cédévacantiste à terme, eh bien, efface en quelque sorte la hiérarchie de l'Église lorsque le dernier membre qui a reçu la juridiction ordinaire meurt. Donc je réponds la même chose qu'à l'abbé Di Sorco. Pierre-Tiremont, s'il vous plaît, pièce numéro 7. De quoi se compose la hiérarchie de l'Église selon le Concile de Trente? Donc, décision infaillible, hein, de trois éléments, ministre, prêtre, évêque. Aucune mention n'est faite comme élément constitutif indispensable de la hiérarchie, le pouvoir de juridiction ordinaire. Donc, si ce pouvoir de juridiction ordinaire disparaît, la hiérarchie peut continuer. Et de fait, elle a continué dans les communautés nanunacum. Voilà. Je vous oppose, donc, très cher frère Louis-Marie, le catéchisme du Concile de Trente. Alors, ensuite, argument ressorti mille fois par les lefévristes, les pseudo-papes modernistes n'engagent pas leur infaillibilité. C'est totalement faux. Ils ont toujours dit qu'ils engageaient leur magistère ordinaire. Pie VI disait que Vatican II relevait du magistère ordinaire de l'Église, donc que c'était infaillible en matière de foi et de mœurs, puisque le magistère ordinaire est infaillible en matière de foi et de mœurs. Et même Bergoglio, récemment, a dit que le document final du synode sur la synodalité relevait du magistère ordinaire de l'Église et qu'il fallait s'y soumettre. Donc là, les dominicains d'Avrier soutiennent quelque chose de matériellement faux. Bon. Ensuite, sur la question de l'unacum, Pierre-Tiremont, s'il vous plaît, mettez la pièce... les pièces A et B. Le frère Louis-Marie soutient que unacum ne signifie pas en communion avec. Et il nous dit les latinistes disent le contraire. Petite parenthèse, il ne cite absolument aucun latiniste qui dit le contraire. Et je ne vais pas le faire ce soir, mais j'aurais pu vous opposer beaucoup d'extraits de Missel dans lequel le unacum est traduit par en communion. Mais on va faire mieux, chers amis. Je vais vous citer une pièce que je vous ai déjà citée, qui est un extrait d'un ouvrage du chanoine Le Courtier, qui a été honoré de plusieurs approbations par la hiérarchie de l'Église, qui s'appelle donc Manuel de la Messe, Explication des prières et des cérémonies du Saint-Sacrifice. Que nous dit le chanoine Le Courtier sur le fait de citer le nom du pape dans le canon de la messe, dans le Te Igitur? Est-ce qu'il nous dit « Oh, c'est rien du tout, c'est totalement accessoire, c'est juste qu'on prie pour le pape comme nous le soutiennent les lefévristes ?» Pas du tout. Il nous dit que citer le nom du pape dans le canon de la messe, dans le Te Deum, c'est un signe de communion avec le Saint-Siège. Je répète, il nous dit que c'est un signe de communion avec le Saint-Siège. Unacum signifie communion. Donc, très cher frère Louis-Marie, vous et tous les holféristes, vous êtes officiellement en communion avec le modernisme, qui est, selon Saint-Pédis, le pire ennemi de l'Église. Je répète, vous êtes en communion avec le modernisme, que vous le vouliez ou non. Vous vous rattachez par ce lien de l'Unacum au modernisme. Tels sont les faits. Ma conclusion est donc la suivante. S'il y a chez certains holféristes une tentation sédévacantiste, sachez qu'il n'y a aucune tentation holfériste chez les sédévacantistes, parce qu'il n'y a pas de tentation pour les hérésies professées par les holféristes, et il n'y a pas de tentation pour venir se soumettre à la secte moderniste à laquelle sont soumis les holféristes, puisqu'ils sont en communion avec cette secte abominable. Je vous remercie pour votre attention, chers amis. Est-ce qu'il y a des questions intelligentes, plus récemment ? Mais pas trop, puisqu'il est déjà tard.
Probablement. Déjà, nous allons remercier... Attends, j'enlève les captures d'écran. Mathieu, qui a fait un don de 10 euros, je crois. Je me mets sur le fil. Exactement, Mathieu. Il y a tellement de messages que je ne sais pas si je vais réussir.
Non, mais s'il n'y a pas de questions, fais pas de zèle, hein, Pierrot.
Je fais un petit coup de molette. Beau Juste et Vrai demande si tu peux faire un commentaire sur Mgr Williamson.
Bah, écoutez, on a fait une émission sur lui il y a quelques semaines de ça, donc je renvoie à l'émission. Hein. C'est pas compliqué. Hein. L'émission qu'on a faite avec Alain Pascal.
Le peroxyde. Pourquoi est-ce que les sédévacantistes ne désignent-ils pas un pape?
Parce qu'ils n'ont pas à le faire, on n'a pas le pouvoir pour le faire. Et comme je vous l'ai dit, je pense que c'est le bon Dieu qui s'en occupera. D'une façon, je ne sais pas comment, je ne sais pas quels moyens humains seront utilisés pour ça. Mais tant qu'on n'a pas un faveur de la Providence, voilà. Écoutez, Mgr Gérard, que nous a-t-il dit ? Le bon Dieu dort dans la barque, notre Seigneur Jésus-Christ dort dans la barque. Vouloir le réveiller, c'est un manque de foi. J'ai confiance en Dieu. Et c'est très drôle qu'on fasse ce grief-là aux sédévacantistes, chers amis. Jamais dans l'histoire de l'Église, on a fait grief aux catholiques de placer leurs espoirs en Dieu. C'est quand même incroyable qu'on nous fasse ce grief-là. Les gens qui nous font ce grief-là n'ont aucun esprit surnaturel. Absolument aucun. Je revendique pour ma part de m'abandonner au bon Dieu. Voilà. Et de toute façon, pour convertir au catholicisme 1,5 milliard de modernistes, chers amis, il faudra une intervention du bon Dieu. Hein. Faut pas rêver. Hein. Là-dessus, il faut pas rêver. Hein. Voilà. D'autres questions, Pierre Thiermont ?
Up in the Sky a trouvé l'émission très intéressante, mais c'est tout.
Émission très technique. Alors, ces émissions, chers amis, sont pas forcément très vendeuses, très grand public et très accrocheuses. Mais néanmoins, il faut les faire pour prendre acte. Nous prenons acte que des hérésies sont professées par le févriste et nous réfutons, magistère de l'Église à l'appui, ces hérésies. Nous défendons la foi. Voilà. Donc ces émissions sont faites en premier lieu pour Dieu, pour défendre la foi qui nous enseigne à travers son Église. Et si en plus ça peut permettre à des gens de se convertir, si ça peut les aider, écoutez, ma foi, ça serait formidable. Hein. Voilà. C'est bon, Pierre Thiermont ?
Oh oui.
Bon, chers amis, je vous donne rendez-vous samedi prochain pour les Parisiens et le Francilien à la fête des amis d'Alain Pascal. Ça commence à 14h30 et c'est 4 rue Brémontier, je crois, métro Wagram, dans un charmant café. Et je vous donne rendez-vous aussi aux Parisiens le 4 avril prochain à la librairie française à partir de 18h30 pour une conférence que je ferai qui s'appellera « Pourquoi le cédévacantisme ?» Voilà. Je vous remercie à tous et je vous dis à dans 2 semaines.